Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ensemble pour 52 minutes pour commenter et décrypter les sujets majeurs de l'actualité africaine de cette semaine. Bonjour Francis Laloupo.
Bonjour Liliane, bonjour aux auditrices et aux auditeurs et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition.
Et le gouvernement malien parviendra-t-il à opérer la réforme territoriale prévue dans l'accord de paix d'Alger et qui a mis fin en 2015 au conflit dans le nord du pays? Depuis quelques semaines, cela suscite un vif débat dans le pays. Une partie de l'opposition boycotte les concertations régionales lancées par le gouvernement cette semaine sur le sujet et pilotées par le Premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga. Sa légitimité ainsi que celle du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui l'a nommé, est remise en cause. Le pouvoir malien a-t-il les moyens de convaincre les adversaires de cette réforme? Nous en débattrons. En République démocratique du Congo, l'opposition a annoncé qu'elle s'était choisi un candidat unique pour la présidentielle avant que deux des ténors n'indiquent le lendemain de cette annonce qu'ils s'en étaient retirés. Depuis, règne une certaine confusion et ce, à moins de deux semaines de l'ouverture de la campagne pour les élections du 23 décembre. L'opposition s'est-elle discréditée? S'est-elle grillée aux yeux de ses électeurs? Ou au contraire, ses chances de remporter la présidentielle à tour unique restent-elles intactes? Analyse tout à l'heure. Au sommaire également, Madagascar, certains candidats auraient-ils utilisé l'argent pour acheter le vote des électeurs? La mission d'observation électorale de l'Union européenne soutient que oui. Dans ses premières conclusions sur l'observation de l'élection présidentielle sur l'île, elle donne même les noms de deux candidats. Dans le cas de l'un d'entre eux, on dément l'accusation et exige de l'ambassadeur de l'Union européenne la publication d'un démenti. Nous parlerons de tout cela tout à l'heure, mais d'abord le plateau avec vous, Francis Laloupo.
Bien sûr, Liliane, au téléphone avec nous depuis Bamako, notre grand témoin invité dans cette édition, Tiemann Hubert Sadio Koulibaly, ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, mais Sadio n'est pas dans mon nom, c'est une invention d'Internet.
Ah, c'est une invention d'Internet.
Tiemann Hubert Koulibaly.
Pourquoi il vous appelle Sadio d'ailleurs? C'est curieux quand même. Hein.
Je ne sais pas, non pas que ce prénom ne soit pas bien, mais ce n'est pas le mien. Ce
n'est pas le vôtre. Voilà qui est corrigé pour Internet en tout cas.
Merci.
Merci à vous, monsieur le ministre, d'être là. Notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Kinshasa, Alain Diaté, journaliste indépendant. Alain Diaté, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être là. Petite fiche de présentation de notre grand témoin, comme de coutume, Tiemann Hubert Koulibaly, diplômé de l'Université de Saint-Étienne en France. Vous vous engagez dans la vie politique du Mali. Dès 1994, en mars 2010, vous êtes élu président de l'Union pour la démocratie et le développement, l'UDD. Vous avez été en charge de plusieurs portefeuilles ministériels, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de 2012 à 2013, avant d'être nommé ministre des domaines de l'État et des affaires foncières, puis ministre de la Défense des anciens combattants de 2015 à septembre 2016, et vous serez de nouveau nommé ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale en 2017, poste que vous avez occupé jusqu'au récent remaniement consécutif à l'élection présidentielle d'août 2018. Tiemann Hubert Koulibaly, vous serez donc notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Vous avez quelque chose à corriger dans la biographie peut-être, monsieur le ministre, non?
Oui, il manque le ministère de l'administration territoriale.
Je sentais bien qu'il manquait quelque chose. Merci d'être avec nous en tout cas. Premier sujet avec vous, Liliane, à Dakar.
Oui, Francis, et ce sera évidemment le Mali. Comment le Premier ministre va-t-il s'y prendre pour persuader tous les réfractaires à la réforme territoriale? L'opposition, une partie de la société civile et la plateforme, c'est l'alliance qui réunit les groupes armés pro-gouvernementaux, sont opposés aux consultations organisées sur cette réforme. Elles ont même tout simplement été empêchées. Et certains leaders politiques soutiennent que la réforme divise le pays, alors que d'autres parlent de découpage territorial sur mesure en se basant sur le projet qui a fuité la semaine dernière. Monsieur le ministre Tiemann Koulibaly, la liste des opposants à cette réforme est longue. On peut citer Modibo Sidibé, Chogelko Kaila Maïga ou encore Moussa Sinko Koulibaly. Et quel est d'après vous le vrai problème? Est-ce que c'est la réforme elle-même ou alors La démarche, c'est-à-dire les consultations préparatoires engagées par le Premier ministre dans le cadre de cette réforme. Monsieur le ministre Tiemane Coulibaly, la liste des opposants à cette réforme semble longue. Modibo Sidibé, Choguel Kokaila Maïga ou encore Moussa Sinko Coulibaly. Quel est d'après vous le vrai problème? Est-ce que c'est la réforme elle-même ou alors les consultations préparatoires engagées par le Premier ministre Soumaïlou Boubaï Maïga?
Madame, il faut rappeler une chose, c'est que la réforme territoriale en cours a commencé en 2012. C'est une loi qui, au mois de mars 2012, crée 11 nouvelles régions au Mali. Et cette loi a été votée à l'Assemblée nationale et l'ensemble des protagonistes actuels, en tout cas des grands leaders, a participé à cela. C'est vrai que c'était une loi qui a été prise dans l'urgence, c'était quelques jours avant le coup d'État. Mais le constat avait été fait de la nécessité de réorganiser le territoire national. Donc ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui a été engagé il y a déjà 6 ans.
Donc l'accord d'Alger est venu trouver déjà que cette réforme territoriale était prête.
Mais bien sûr, l'accord pour la paix et la réconciliation est postérieur à la loi qui crée les 11 nouvelles régions au Mali et à une deuxième loi qui a créé un certain nombre de circonscriptions administratives dans 3 des nouvelles régions du nord du Mali. Donc l'accord pour la paix a trouvé ce projet en place. Maintenant, nous savons que dans les problèmes qui ont été identifiés au Mali, nous savons qu'il y a nécessité de réorganiser notre territoire, pas seulement au Mali, au nord, mais un peu partout, de manière à ce que l'administration soit plus proche des populations, de manière à ce que le maillage soit plus resserré, de manière à ce que certains se sentent moins exclus, et de manière à corriger des incongruités qui aujourd'hui pèsent sur la vie nationale. Je comprends que certains leaders politiques s'opposent pour nombre d'entre eux parce que ils ne partagent peut-être pas les déclinaisons régionales de la réorganisation territoriale. Pour d'autres, peut-être parce qu'il y a opportunité de s'opposer à ce mandat qui commence pour des raisons, on va dire, tactiques, afin de gêner l'action de transformation qui est prévue par le président de la République pour la mise en œuvre de son mandat. Mais il est clair, il est évident...
Si vous accusez peut-être la classe politique de faire du calcul politique, est-ce qu'il en est de même pour la société civile? Parce qu'il n'y a pas que la classe politique, il y a aussi la société civile et la plateforme qui sont opposées à cette réforme territoriale.
Non, je n'accuse pas. Je dis bien que peut-être que certains s'opposent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les déclinaisons régionales. Une réorganisation territoriale, il y a une loi qui est prise, qui crée des régions, après les régions donnent naissance à des cercles, qui donnent naissance à des communes, etc. Certains peuvent ne pas être d'accord pour des raisons objectives. Nous l'entendons bien. C'est pour ça d'ailleurs que les concertations sont organisées, afin que cet avant-projet puisse être soumis aux populations et qu'elles décident en liberté et en transparence de ce qu'elles voudraient faire.
Permettez-moi, Francis, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez répondre en 30 secondes pour permettre à Francis de vous poser les questions? Dites-moi, c'est quoi le problème? La réforme, c'est-à-dire le projet de réforme qui a fuité, le contenu ou c'est l'approche, c'est-à-dire le fait que le Premier ministre ait engagé des consultations pour convaincre les uns et les autres à accepter cette réforme? C'est quoi le problème en un mot?
Madame, je vous dis que cette loi qui crée les nouvelles régions date de 2012. Deux, nous sommes tous d'accord qu'il est nécessaire de réorganiser le pays.
Vous l'avez expliqué, monsieur le ministre, mais est-ce que vous pouvez répondre à la question? Selon vous, quel est le problème?
Oui, mais il faut... Alors, j'ai envie de vous dire que si vous voulez que certains s'expriment sur leurs problèmes, il faut leur poser la question à eux. Moi, je vous donne mon point de vue en vous disant que on ne peut pas refuser une loi qui est déjà adoptée par l'Assemblée nationale et il est encore moins normal qu'on refuse d'aller à des concertations pour en discuter. au moins, quand on est contre un projet et que des concertations sont organisées, la moindre des choses, c'est de participer, y compris pour dire nous ne sommes pas d'accord. Mais on ne peut pas dire ne faites pas de concertation, ce n'est pas très raisonnable. Et comme je vous disais, je n'accuse pas, j'observe simplement que certains ne sont pas d'accord sur les déclinaisons régionales ou locales, mais d'autres s'opposent alors même qu'ils ont été souvent à l'origine du texte fondamental, qui est la loi qui crée les nouvelles régions.
Merci.
Et cela, comment est-ce qu'on pourrait analyser ça si ce n'est pas d'un point de vue tactique?
Monsieur le ministre, vous avez rappelé vous-même que cette loi a été votée en 2012. Alors, on sait qu'il y a un contentieux post-électoral consécutif à l'élection présidentielle d'août dernier. Ce contentieux reste encore vif. Est-ce qu'il n'était pas un peu précipité d'engager ce chantier qui réclame quand même le plus large consensus possible des acteurs politiques et de la société civile? Est-ce que le moment politique est opportun pour réactiver cette réforme?
Le consensus est obligatoire. Le consensus est obligatoire. Et les concertations pourraient nous aider à aboutir à un consensus. Maintenant,
la question du moment politique.
Il y a un contentieux post-électoral. Mais monsieur Laloupo, l'élection, elle n'est pas entachée d'illégalité. Elle n'est pas entachée d'absence d'éthique.
Ce n'est pas ce que disent ceux d'en face. Donc,
je vous prierai d'accepter mon point de vue également.
Mais le contentieux, il est là, en tout cas, le contentieux. Est-ce que le moment politique est opportun? Est-ce qu'il a été bien choisi pour réactiver cette réforme?
Non, nous estimons que nous devons aller à la réforme parce qu'il est nécessaire de la lancer afin, comme l'a dit Liliane Niatia au début de l'émission, pour que des dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation puissent être mises en œuvre. Mais il est évident que, qu'en l'absence d'un consensus national, cette réforme aura du mal à avancer. Mais on ne doit pas lier ça au contentieux électoral, comme vous dites, parce que pour nous, il n'y a pas de contentieux. L'élection est terminée. Elle est terminée. C'est vrai qu'il y a une partie de la classe politique qui dit ne pas reconnaître les résultats de l'élection, qui dit ne pas reconnaître le chef de l'État, ni le Premier ministre. Mais avec cela, vous avez bien vu que le Premier ministre a engagé un dialogue. Et nous pensons également que pour aplanir toutes ces difficultés, enfin pour arriver à un équilibre, il ne serait pas une mauvaise idée que le président de la République lui-même, peut-être, engage un dialogue.
Mais comment peut-on espérer un consensus dans ce contexte, monsieur le ministre? Vous ne pouvez pas ignorer quand même que ce consensus est impossible dans le contexte actuel dès lors qu'un contentieux post-électoral est en cours.
Il n'y a pas de contentieux post-électoral.
Ce n'est pas l'avis de Soumaïla Cissé qui considère qu'il y a un contentieux post-électoral, par exemple.
Mais vous savez, monsieur Laloupo, les mots ont un sens. Un contentieux, ça a un sens. Il n'existe aucun contentieux post-électoral. Il y a de la contestation post-électorale. Ce n'est pas la même chose.
Enfin, donc vous admettez la réalité d'une contestation post-électorale non vidée qui peut-être explique l'attitude de l'opposition malienne face à cette réforme territoriale.
Mais quand des acteurs politiques prennent une position en disant nous refusons, comment voulez-vous faire? Vous parlez de vider une contestation, on la vide comment? Par le dialogue. C'est ce que le président de la République et le Premier ministre ont commencé. Le Premier ministre a rendu visite à l'ensemble des acteurs afin de discuter avec eux. Mais il ne faut pas oublier une chose. Cette élection procède de la loi. Et aujourd'hui, elle n'est entachée d'aucune espèce d'illégalité.
Alors, je vous pose la question autrement. Thiemann Hubert Coulibaly, je vous pose la question autrement. Pourquoi ne pas faire aboutir justement le dialogue d'apaisement politique avant d'engager une telle réforme qui nécessite justement un consensus?
Parce que nous sommes dans des urgences. Parce que nous avons urgemment besoin de mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation. Le Mali nous attend là-dessus. Nos partenaires nous attendent là-dessus. Nous ne devons pas perdre de temps. Cela est un intérêt national. Et il est souhaitable que l'ensemble des acteurs politiques aient cela en tête. L'avenir de notre pays dépend de cela. L'avenir de notre construction nationale dépend de cela. Et je suis d'accord qu'il faut faire des concertations. Je recommande qu'il y ait la poursuite de ce dialogue, y compris au niveau du président de la République, afin que l'ensemble des acteurs puissent se parler autour de ce problème national. Après, les positionnements tactiques, c'est autre chose.
Que répondez-vous à ceux qui, comme Choguel Maïga, président du MPR, un mouvement patriotique pour le renouveau, refusent de s'associer à cette réforme du fait, disent-ils, qu'elle serait porteuse des germes de la division sociale et d'une future partition du pays?
Je demande à ce moment-là que ceux qui sont contre la réorganisation territoriale en général, ou ceux qui sont contre une de ces déclinaisons régionales ou locales, viennent autour de la table avec une contre-proposition. Vous ne pouvez pas dire « nous n'en voulons pas et nous ne proposons rien en échange ». Il faut proposer, parce que cette loi de 2012 a été votée à l'Assemblée nationale. Et si mes souvenirs sont exacts, le MPR était représenté à l'Assemblée nationale.
C'est vrai, c'est vrai.
D'accord. Mais monsieur le ministre, il semble bien qu'il y a un problème de communication. En tout cas, la communication ne passe pas pour le moment entre pouvoir et opposition et même une partie de la société civile. Est-ce qu'on peut envisager une intervention extérieure pour rapprocher les vues? Je veux dire, est-ce qu'on peut envisager la possibilité d'avoir un médiateur extérieur ou même malien pour essayer de rapprocher les positions des uns et des autres? Est-ce que vous y êtes favorable?
Malien, oui. Extérieur, ce serait beaucoup trop. Nous avons déjà beaucoup d'intervenants extérieurs sur nos difficultés nationales. Je crois que là-dessus, des intervenants nationaux qui sont directement concernés et irrévocablement concernés peuvent faire de la médiation afin que ce soit la sagesse qui prévale. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'accord pour la paix et la réconciliation fait l'objet d'un monitoring international. La MINUSMA a une mission politique au Mali, lié à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Et certaines dispositions de cet accord-là prévoient des réformes politiques et institutionnelles dont une partie est portée par ce projet de réorganisation territoriale.
Merci. Francis, je propose qu'on écoute Alain.
Oui.
Avant la pause, oui. Qui intervient dans 2 minutes à peu près. Alain, sur cette querelle entre la classe politique malienne sur cette réforme territoriale.
Bon, c'est un peu issu de l'expérience que j'ai déjà à partir du Congo. À partir du moment, pour des raisons de terre, des raisons d'occupation géographique, parce que ce qui fait que je suis congolais, que vous êtes ivoirien, gabonais, malien ou mauritanien, ce qui fait qu'on a cette identité, c'est la terre. À partir du moment où on s'est battu pour la terre, toutes les réformes qui viennent après ont une interprétation totalement politique. Alors, un découpage en plus, nous avons connu le cas aussi, parce que le Congo a été redécoupé. Encore une fois, nous avons eu la chance de ne pas l'avoir redécoupé par rapport à une crise. Mais avec une crise latente, un redécoupage est un positionnement politique. Il y en a qui verront toujours l'autre sous un œil suspicieux. Il y a ces considérations qui vont arriver de part et d'autre selon lesquelles est-ce que ce n'est pas pour avoir remplacé ceci. C'est une blessure qui est restée ouverte et qui n'est pas encore fermée. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être que c'est le bon moment, je ne sais pas, je ne suis pas malien, mais il y a encore ça. Quand on lit un petit peu les points de vue des uns et des autres, on se dit qu'il y a des choses à refaire de part et d'autre.
Merci
et
beaucoup.
Là, je pense que ça s'explique par rapport à ça, parce que c'est une espèce de méfiance à faire.
Merci, on marque une pause.
Le débat, BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Le débat, Liliane Niacha et Francis Laloupo.
En duplex à Dakar et Paris, notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Bamako, Tiamane Hubert Koulibaly, ancien ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale du Mali. Et notre confrère invité dans cette édition depuis Kinshasa au téléphone, Alain Diaté, journaliste indépendant. Monsieur le ministre, vous disiez que vous étiez d'accord avec l'intervention de notre confrère Alain Diaté, hein, c'est ça?
Son analyse est très pertinente parce que le contexte est important. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère moi parler de réorganisation territoriale, parce que dans un contexte où nous nous sommes battus en effet pour éviter une partition du pays, dans un contexte où des oppositions intercommunautaires et intracommunautaires ont dû être traitées
par l'ensemble du processus politique, y compris militaire, qui est engagé au Mali depuis 2012, il est évident que quand on parle de redécoupage tout de suite, il y a une conception, on va dire, commune qui pourrait penser, qui pourrait renvoyer, à des manipulations visant à favoriser une communauté contre une autre. Et en plus, tout cela poursuit ce sont des ambitions pour le pouvoir qui sont poursuivies. Et donc, le découpage fait penser aussi immédiatement, enfin, chez certains, à une manipulation ayant des visées électorales. Alors, donc, il y a beaucoup de réflexes qui peuvent contaminer le processus. Mais encore une fois, le processus de concertation qui est lancé est une occasion pour s'expliquer, est une occasion pour proposer, contre-proposer, pour aboutir à un consensus. C'est pour ça qu'il n'est pas raisonnable de refuser les concertations.
Mais, monsieur le ministre, pour l'instant, vous semblez bien seul dans l'idée de cette réforme. En dehors de la majorité, qui vous soutient dans cette idée?
Mais madame, vous dites la majorité.
J'ai la majorité présidentielle, c'est-à-dire le parti au pouvoir et ses alliés, ses soutiens.
Mais oui, c'est la majorité, vous parlez de la majorité. Donc ne réduisez pas la majorité à un groupe insignifiant en me disant que je suis tout seul. Je ne suis pas tout seul. Il y a des millions de Maliens qui soutiennent. Mais l'opposition qui refuse est tout aussi importante que cette majorité qui soutient. Je ne néglige pas, ne serait-ce qu'une personne qui ne serait pas d'accord, cela serait un boulet à traîner pour cette réforme.
Vous parlez aussi de visées politiques de certains membres de l'opposition, ce qui justifierait peut-être leur opposition à cette réforme. Mais quelle est la logique qui a guidé le découpage qui a été proposé, le projet de découpage qui a été proposé et qui a fuité dans la presse? Quelle est la logique?
Mais une logique de continuité territoriale, à commencer par ça, une logique pour rapprocher les localités des chefs-lieux de région, une logique pour faire en sorte que les nouvelles régions créées puissent bénéficier des investissements.
Je pose la question parce que certains de l'opposition parlent de découpage taillé sur mesure.
Oui, mais madame, vous me posez une question, je réponds avec les éléments qui sont les nôtres. Je ne pourrais pas à chaque fois justifier, vous me demandez d'ailleurs de soutenir ce que dit l'opposition, je ne pourrais pas le faire parce que je n'adhère pas à ce qu'ils disent. Je dis bien ceci, c'est important. Il est évident que dans les déclinaisons régionales de la réorganisation territoriale, nous pouvons avoir à discuter de certains cas spécifiques. Et pour cela, ce sont les concertations qui vont nous départager. Parce qu'à Bamako, les leaders politiques s'expriment, font des marches, des interviews, parlent à BBC ou parlent à une autre radio. Ça ne veut pas dire que ce sont les populations du fin fond du Mali qui ont parlé. C'est pour ça qu'il faut aller vers ces populations-là, voir qu'est-ce qui ne va pas dans la réorganisation au niveau local, parce que c'est ce qui est important. Oui. Dans la mesure où l'objectif, c'est d'intégrer le maximum de population du Mali dans le processus de développement et de gestion du pouvoir. Oui.
Mais monsieur le ministre, parmi ceux qui sont opposés à cette réforme territoriale, il y a quand même la plateforme, cette alliance de groupes armés maliens pro-gouvernementaux, ces groupes armés. Est-ce que ce n'est pas là une indication forte sur le caractère non consensuel de cette réforme?
J'en conviens, mais je considère la plateforme comme une organisation politique importante qui milite pour les intérêts de plusieurs communautés au nord du Mali.
C'est ça.
Donc,
c'est ça.
Il faut absolument écouter tout cela de manière à ce que la réforme ne porte pas d'erreur, nous pouvant nous, nous, nous,
nous amener à des difficultés supplémentaires.
D'où les concertations. Alors, d'accord.
Je me répète, oui. D'où les concertations.
Voilà. D'accord. Très bien. Alors, autre question, monsieur le ministre. Alors, vous avez fait le lien, hein, et c'est juste entre l'accord de paix de réconciliation, communément appelé accord d'Alger, et cette réforme territoriale. Est-ce que, voilà, quand on écoute ceux qui sont opposés à cette réforme, est-ce que ce n'est pas tout à cet accord d'Alger qui est remis en cause par ceux qui aujourd'hui refusent de s'associer à ces concertations?
Écoutez, depuis bien des années maintenant, depuis 3 ans que nous avons signé l'accord, nous savons que certains n'ont jamais été d'accord. Faute d'avoir combattu ouvertement l'accord signé, beaucoup ont joué donc de subterfuge et de un peu par la bande pour sans dénoncer l'accord, en tout cas nous créer des difficultés à le mettre en œuvre. Mais j'observe simplement que c'est cet accord que nous avons. C'est un cadre dans lequel nous pouvons nous entendre. Et il n'y en a pas un deuxième. Aujourd'hui, la question qui est posée, c'est qu'est-ce que nous devons faire pour optimiser la mise en œuvre de l'accord, afin que le Mali, en tant que nation, puisse continuer à vivre dans ses frontières.
Oui,
c'est ça la question qui est posée. Et il faut que l'ensemble de la classe politique se convainque que jouer avec cet accord-là, non seulement créerait des difficultés pour l'avenir du Mali, mais risque de provoquer un effet d'éviction sur l'ensemble de ceux qui ont mis des ressources afin de nous accompagner.
Monsieur le ministre,
le Mali a déjà trop investi dans l'accord pour aujourd'hui voir certains
reculer,
torpiller.
Monsieur le ministre, oui, franchement, est-ce que les choses ne sont pas devenues plus difficiles aujourd'hui depuis l'élection, la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta en août dernier? Est-ce que le contexte politique qui est devenu plus tendu depuis cette élection ne rend pas plus difficile, je dirais, la capacité du pouvoir à réunir tout le monde autour d'une table et à trouver des solutions consensuelles de sortie de crise?
Non, il est évident que nous arrivons à une phase très difficile. Le second mandat du président de la République commence dans des difficultés. Est-ce que ce mandat sera plus difficile que le précédent? Je ne saurais le dire. Mais dans la mesure où ces difficultés arrivent au début du mandat, il faut y mettre de l'énergie afin de les surmonter pour avancer. Vous savez, dans une telle course, les dernières étapes sont les plus difficiles. Elles sont les plus difficiles. Plus on s'approchera d'une solution durable, plus nous nous approcherons d'un équilibre national, il faudra faire face à des défis qui sont à la taille de nos espoirs et de nos espérances. Donc des défis qui sont énormes. C'est cela ma lecture, mais pour autant, nous ne baisserons pas les bras parce que notre mission de génération est de régler ce problème.
Justement, vous dites que vous ne baisserez pas les bras. Comment sauver ce projet de réforme ou, si vous voulez, comme vous le dites, de réorganisation territoriale? Est-ce que le gouvernement a les moyens aujourd'hui, si oui, lesquels, de convaincre à la fois les résistants, les réfractaires et même les hésitants à ce projet?
Bon, madame, le gouvernement a tous les moyens de dépasser cela. Je vous ai répété comme un perroquet depuis tout à l'heure la question des concertations qui est quand même très importante. Non, mais c'est vrai.
Dans la ressource dont dispose le gouvernement aujourd'hui, c'est la concertation. Et on a fait le constat que pour l'instant, l'opposition n'en veut pas et boycotte ces initiatives. Que reste-t-il?
Mais l'opposition ne boycotte pas toutes les concertations. Il y a des concertations qui ont vu la participation de l'opposition dans plusieurs localités. Il faut faire attention. Les voix qui s'expriment à Bamako ne sont pas les réceptacles de l'ensemble des voix du Mali. Ça, je dois vous le dire. Nous avons des informations qui nous arrivent de localités où l'ensemble des forces vives invitées à participer aux concertations. Mais évidemment, nous ne pouvons pas nous satisfaire tant que nous n'aurons pas gommé toutes les difficultés. C'est pour ça qu'en plus des concertations, il y a peut-être un dialogue politique à un niveau plus élevé à engager autour de l'avenir commun.
Une autre hypothèse.
Et décrocher des préoccupations tactiques, quoi, comme j'ai dit tout à l'heure.
D'accord, on a bien compris. Est-ce qu'on peut envisager l'hypothèse que le pouvoir contourne, que la majorité contourne, par exemple, les opposants les plus, comment dire, les plus farouches, en quelque sorte, les plus opposés, en tout cas, à cette réforme, pour pouvoir faire une sorte de passage en force subtil?
Non. Non, il ne faut pas faire le passage en force. Francis Ladoupo n'est jamais subtil. Là, vous jouez beaucoup avec les mots. Et le passage en force ne saurait être subtil. Il faut justement trouver un moyen subtil pour surmonter. Et dans ça, moi, je fais confiance au président de la République, je fais confiance au Premier ministre. Et dans ma position d'observateur aujourd'hui, je peux prendre la distance. Je sais qu'il y a de la place pour un dialogue à un très haut niveau, pour procéder par inclusion et faire en sorte de dépasser...
Un dialogue qui pourrait discuter très clairement du contentieux ou de la contestation post-électorale. Il n'y aura pas de sujet tabou.
Le président de la République a été élu. Il a été élu proprement. Il a été investi par la Cour suprême et renvoyé à l'exercice de ses fonctions. Cela ne peut pas être discuté.
Donc
nous mettions à discuter cela... Ce serait une remise en cause de beaucoup trop de choses.
Donc vous ne désespérez pas de ramener...
C'est pas parce qu'on a perdu une élection qu'on décide de perdre le pays. Non. Il y a des élections qui seront organisées pour les législatives et puis après, un nouveau président sera élu dans 5 ans. Mais ma foi, ceux qui ont perdu cette année pourront peut-être se représenter et ils gagneront peut-être. Mais on ne peut pas remettre en cause le mandat que le peuple a confié à Ibrahim Boubacar Keïta.
Donc vous ne désespérez pas de ramener à la table des discussions, des concertations, ceux qui font aujourd'hui la politique de la chaise vide?
Oui, c'est possible de les ramener et il faut que le président de la République et le Premier ministre s'emploient à cela. Tout est possible. Il y a beaucoup d'arrangements, de rapprochements, d'inclusion. Dans les processus de décision, il y a une palette de solutions qui pourraient être mises en œuvre pour dépasser cela.
Le débat, BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Avec un grand témoin invité depuis Bamako au téléphone, Tiaman Hubert Koulibaly, ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Et notre confrère invité depuis Kinshasa, Alain Djaté, journaliste indépendant. Cap sur Kinshasa à présent, la RD Congo, avec l'annonce contrariée d'une candidature commune ou unique de l'opposition. Alors cela pourrait ressembler, Liliane, à un mauvais scénario. Alors que l'opinion internationale avait salué dimanche dernier l'accord conclu à Genève par 7 leaders de l'opposition pour la désignation d'un candidat unique à la personne de Martin Fayoulou, 2 des signataires, Étienne Tshisekedi et Vital Kamerhe, allaient 24 heures plus tard, 24 heures seulement plus tard, retirer leur signature de cet accord, pour, disent-ils, satisfaire la demande de la base de leur parti politique respectif. Un séisme politique encore diversement commenté à l'heure où nous enregistrons cette émission. Ce jeudi dernier, les 5 autres leaders signataires de cet accord se sont de nouveau réunis à Bruxelles pour dégager une ligne de conduite commune en vue de la présidentielle du 23 décembre prochain. On va écouter avec vous à BBC à Dakar un élément sonore sur cette actualité.
Oui, Francis, et nous allons proposer à nos auditeurs d'écouter les précisions du correspondant de BBC Afrique à Kinshasa, Pauli Mousalia, sur cette volte-face de Félix Tshisekedi, leader de l'UDPS, et de Vital Kamerhe de l'UNC, autre signataire de l'accord qui s'est évidemment rétracté. On écoute.
J'ai compris que l'acte posé à Genève a été mal compris et rejeté par la base. Par conséquent, je retire ma signature de cet accord. C'est par ces mots que Félix Tshisekedi a justifié sa position dans un entretien avec une radio locale. Ce revirement fait suite à des manifestations des militants de l'UDPS, le parti historique de l'opposition. Ils protestaient lundi contre la désignation du député Martin Fayoulou comme candidat unique de l'opposition. Dans la foulée, l'opposant Vital Kamerhe a lui aussi annoncé son retrait de l'accord de Genève. L'ex-président de l'Assemblée nationale a lui aussi subi les pressions de ses partisans qui ont également manifesté dans plusieurs villes à travers le pays. À 10 jours du lancement officiel de la campagne électorale, c'est donc un nouveau rebondissement. Pour la première fois, l'opposition congolaise avait réussi à s'accorder autour d'un candidat commun pour maximiser ses chances de remporter cette présidentielle à un seul tour. Mais cette union affichée à Genève n'aura duré que moins de 24 heures. Pauli Mousalia, Kinshasa, BBC Afrique.
Merci beaucoup. Première question, évidemment, Alain Diaté, qui est sur place à Kinshasa. Alain, quel peut être l'impact de cet épisode sur la suite du processus électoral?
Non, je pense que toutes les cartes sont remises en jeu, hein, sont remises en jeu. On attend, quand il a décidé de faire le retour des leaders qui auraient fait la signature à Kinshasa. Je pense que Félix Tshisekedi devrait venir soit demain, soit dimanche, mais probablement demain. Vital Kamerhe par...
En tout cas, ils sont censés rentrer ce week-end. Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi.
Ils sont censés rentrer ce week-end. Voilà. Et ça dépendra de l'accueil et du message qu'ils vont rapporter à leur base respective. À partir de là, nous saurons exactement ce qui en sera pour la suite.
Alors, mais même si Martin Fayoulou poursuit sa campagne, est-ce que le revirement de Étienne Tshisekedi et Vital Kamerhe n'a pas affaibli la dynamique de l'opposition, enfin, celle qui est la plus attachée à l'alternance politique?
Je pense que déjà, au départ, il y a une faiblesse. La faiblesse qu'il y a au départ, c'est que nous avons quand même 21 candidats à l'élection présidentielle. Sur les 21, 3 ont été invalidés, il en reste 18. Si vous enlevez Emmanuel Chalary, qui est le dauphin, et le président de la République, il y en a 17. Et nous avons un groupe ici de 5 leaders qui sont partis avec 3 autres, 4 leaders, pardon, qui sont partis à Genève, avec les 3 autres invalidés, dont un qui n'a pas pu revenir d'ailleurs, qui est Moïse Katumbi, qui se retrouve à Genève. Alors ceux qui sont restés à Kinshasa se sont posé la question, les 11 autres ont dit, mais qui est le seul? Voilà. C'est la première question. Eux, ils sont partis, tous les yeux étaient tournés vers eux. Et voilà, ça ne marche pas, mais là, ils doivent revenir. Alors, est-ce qu'ils vont composer avec ceux qui étaient restés et qui n'ont pas été conviés à cette réunion? On ne sait pas, première chose. Et la deuxième question qui se pose, c'est celle de savoir, il y a eu un problème de définition au départ. Est-ce que c'était une réunion pour l'union de l'opposition ou pour l'union des leaders du parti d'opposition?
Oui.
Ça aussi, c'était une chose qu'il fallait définir. Alors, maintenant qu'ils ont connu des problèmes, tout cela est à redéfinir. Il le fera de son côté, et on est en train d'imaginer aujourd'hui une probable union entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, probablement, parce qu'ils sont dans le même classe, ils sont dans le même bateau.
D'accord. Mais est-ce que la fissure n'était pas déjà annoncée et même consommée avant même la rencontre de Genève? Parce que sur la question, par exemple, de la machine à voter, l'UDPS s'était déjà désolidarisé des autres qui en font une vraie bataille.
Et je pense que là, vous avez posé la bonne question, parce que malheureusement, hein, on était dans le feu de l'action, et donc il faut prendre beaucoup de recul pour comprendre des choses. Et ce recul-là, je crois qu'il est dans la question que vous venez de poser. L'UDPS est partie, elle était la seule à dire que j'allais aux élections. À partir de ce moment-là, personnellement, je ne voyais pas ce que l'UDPS faisait dans cette réunion. C'était un point de vue fondamental. Ils se sont retrouvés dans cette réunion, certainement en se disant, on va faire la force, mais Félix Tshisekedi en partant, savait que c'était lui le leader qui allait désigner. Pour le savoir, il fallait voir un petit peu ce qui s'est passé entre samedi et dimanche en termes de fake news sur les réseaux. C'était énorme. Des personnes, des personnalités sérieuses se sont risquées à présenter des félicitations parce qu'il n'y avait aucun doute par rapport à ces fake news. Et après qu'on s'est ressaisi, en sachant qu'effectivement la nouvelle ne tomberait que dimanche soir.
Oui.
Mais en se retrouvant là-bas, Félix Tshisekedi était certain qu'il serait désigné parce qu'en termes d'envergure, je crois que c'était le seul qui pouvait être...
Et d'ancrage national. D'accord.
Et l'ancrage national. Alors, le sujet, c'était Vital Kamerhe, parce qu'il a toujours à son crédit la troisième place aux élections de 2011. Je disais, voilà, c'est très bon ce tandem-là.
On va peut-être demander l'avis de Hubert Koulibaly. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez de cette situation très particulière où des leaders signent un accord, s'engagent d'ailleurs à le respecter, y compris en s'engageant à se retirer de la vie publique au cas où ils se rétracteraient par la suite? Et 24 heures plus tard, ils se rétractent, renient leur signature au prétexte que leur base aurait contesté cette signature.
Oui, vous savez, je ne veux pas être un censeur dans des actes posés par nos frères de l'opposition à RDC, mais il est évident que l'opposition à RDC avait un certain nombre de problèmes, de difficultés face à elle. Le mode de scrutin, le poids de la de la majorité actuelle, les divisions en son sein et la machine à voter. Sur les quatre difficultés, elle avait une chance pour en résoudre une, c'était celle des divisions en son sein. Et nous constatons qu'elle n'a pas su le faire. Donc je vois ça très mal engagé pour elle. Maintenant, vous savez, j'ai brièvement connu Martin Fayoulou parce qu'il a été directeur d'une société d'hydrocarbures un temps au Mali. Un homme très bien, sous bien des égards, et de grande valeur. Alors, qu'est-ce que lui-même a comme capacité de mobilisation pour faire face à ces problèmes que j'ai cités tantôt? Oui. Je l'ai entendu il y a 2 jours appeler non seulement ses frères qui se sont rétractés à revoir leur position, mais je pense qu'il a pris du poil de la bête parce qu'il a dit que Emmanuel Chadari, candidat
du pouvoir,
il a qualifié de faible.
Voilà, était un candidat léger.
Léger, ouais, c'est tout à fait le mot.
Léger. C'est
il a fait ses déclarations sur la BBC.
Dans certaines dépêches. Donc il est combatif, mais le mode de scrutin n'a pas changé. Il est combatif, mais la majorité présidentielle, elle est structurée.
Mais quelles peuvent être les conséquences politiques de cet épisode qu'on vient de vivre à RD Congo?
Écoutez, Francis, les conséquences politiques, à mon avis, vont être immédiates. C'est un affaiblissement.
Donc vous pensez que l'opposition a été discrédité et a perdu toutes ses chances devant le candidat Emmanuel Chadari?
Non, mais Liliane, vous êtes sévère. Je n'ai pas dit discrédité.
Écoutez, Francis vous a posé la question sur les conséquences, l'impact de ce revirement sur...
C'est un affaiblissement de leur dispositif.
Oui.
C'est un affaiblissement de leur dispositif.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est un boulevard qui est ouvert pour le candidat du pouvoir, Ramazani Chadari?
J'ai comme l'impression, oui, qui est dans un camp qui est structuré, qui est dans un camp qui s'organise avec les ténors de ceux qui ont animé leur camp jusque-là, qui ne souffrent pas de division. Et merci. Vous savez, c'est un mode de scrutin à un tour.
Oui, tour unique. Vous êtes d'accord, Alain? Alain, vous partagez l'analyse de M. Koulibaly sur le fait que l'opposition s'est affaiblie et a peut-être vu ses chances de remporter l'élection être réduites avec cet épisode?
Alors, effectivement, je pense que c'était pas sans conséquence. Les gens, il y a beaucoup de déçus. Les déçus cherchaient un endroit où aller se réfugier. Le directeur du cabinet du président de la République, qui est membre du FCC, qui est le fondateur de l'Internet, qui est la personne qui va présenter Chadari, disait que tous ceux qui sont déçus nous rejoignent. C'était ironique, mais en même temps, c'est pas loin. Alors, est-ce que les gens sont prêts à faire ce grand feu pour aller de l'autre côté? Je ne sais pas. L'opposition, là où elle peut se rattraper, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'un des leaders de l'opposition, ça reste l'IDPS. L'IDPS, quand il y a un mot d'ordre, c'est le mot d'ordre de l'opposition. Donc le visage de l'opposition qu'incarne l'IDPS peut rattraper la situation. Mais après, il faut beaucoup de tact pour rattraper la situation. C'est pour ça tout à l'heure que je disais que le retour de Félix Tshisekedi sera un élément vraiment important et déterminant pour voir un petit peu ce qu'il en sera. Je ne dis pas que ça va éliminer un petit peu, ça va éliminer les séquelles de l'acte qui a été posé. Parce que, quand vous regardez, on parlait tout à l'heure d'un accord qui était déjà faible au départ, c'est que, et quoi où on en est, on ne peut plus retirer les signatures, on ne peut plus retirer sa candidature. Alors, est-ce que c'était une réunion simplement psychologique, ou c'était vraiment une réunion pour arriver à un candidat commun? Parce que les électeurs qui iront. Dans l'arrière-pays, là, on ira à Bounia encore, on est tous partout. Quand ils vont arriver devant l'écran, il y aura quand même Caméré, il y aura quand même Tshisekedi.
Ouais, puisque
l'accord est retrouvé.
Leur bulletin risque justement d'être imprimé aussi. Merci. Voilà, merci à vous. Francis, sans transition, le dernier sujet, Madagascar.
Oui.
La commission électorale annonce la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 7 novembre pour mardi prochain. La période de l'attente de ces résultats est très animée et tendue. Cette semaine, il y a eu des manifestations devant la commission électorale, la dite commission, les mécontents dénonçant, selon eux, un manque de transparence de cet organe. Ils ont annoncé qu'ils vont déposer une plainte et le président de l'organe électoral les a renvoyés vers la haute cour constitutionnelle. C'est elle qui donnera les résultats définitifs après la proclamation de ce provisoire par la CENI. Évidemment, la haute cour aura auparavant examiné et vidé d'éventuelles contestations. Et l'Union européenne, entre-temps, a dénoncé l'utilisation de l'argent par certains candidats pour obtenir le vote des citoyens, ce que les concernés ont démenti. Monsieur Tiemane Koulibaly, cette ambiance post-électorale et pré-résultat ne laisse-t-elle pas penser que le processus électoral malgache peut être qualifié de raté?
Non, pas encore. Vous savez, madame, ces élections-là sont, c'est une espèce de remake des tours précédents. On retrouve là, face à face, un certain nombre d'acteurs qui se sont affrontés par le passé, qui ont exercé le pouvoir et qui sont implantés dans le pays. Alors, il y a quelques jours, on annonçait qu'un second tour se précisait pour les élections malgaches. Mais j'observe aussi que même les favoris commencent à formuler des critiques par rapport à la CENI ou par rapport à un certain nombre de difficultés. Alors, ceux qu'on considère comme des candidats non favoris, je ne veux pas dire petits candidats, non favoris, se sont plaints. Les candidats favoris se sont plaints de la même manière. J'ai envie de dire match nul. Il faut juste attendre que les résultats arrivent, parce qu'il y a près de 25 000 bureaux de vote. Il y a quelques jours, ils étaient à peu près à
70%. Oui, c'est encore les résultats partiels. Les résultats provisoires ne sont pas encore...
70% voilà, de traitement des un peu moins de 25 000 bureaux de vote.
Mais est-ce que c'est une ambiance sereine pour la commission électorale?
Non, elle n'est pas sereine, madame. Mais vous savez, dans nos pays, en Afrique, les processus électoraux ne sont jamais sereins. En tout cas, c'est très rare que nous fassions nos élections. Voilà. Au début, à Madagascar, c'était plutôt des cris de joie, c'était plutôt une bonne ambiance. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans la centralisation des résultats, c'est vrai qu'il y a un raidissement des positions. Mais c'est comme ça. Nos processus électoraux doivent arriver à maturité. Nous devons continuer à travailler notre pratique démocratique, nous devons adapter nos constitutions et nos modes d'élection à notre culture, à nos cultures. Tout cela n'est pas facile.
Mais pourquoi ne tire-t-on pas les enseignements justement des expériences passées, qu'on a l'impression qu'à chaque fois c'est le même scénario qui se répète,
notamment pour Madagascar.
Mais parce que Francis Laloubo, parce que c'est encore jeune, c'est 50 ans. C'est rien dans la construction des nations, surtout leur construction psychologique.
C'est rien.
Il y a deux générations. Aujourd'hui, il y a un candidat qui est très très jeune dans la compétition malgache. Rajoel est très jeune. Les autres sont un peu plus madrés, on va dire. Mais il est évident que le changement des générations, le passage de témoins, favorisera aussi l'amélioration des postures des uns et des autres face à l'élection.
Alain, en quelques mots.
Alain, un commentaire sur ces lendemains d'élection à Madagascar.
Troublé, on va dire.
On va dire ça.
Oui, il y a comme...
ouais.
Oui, par rapport à ça, de loin, je suis un malgache, je suis un peu mort. J'ai l'impression que Madagascar a un problème d'alternance. Non pas d'alternance en termes de changement à la tête de l'État, mais d'alternance en termes d'acteurs politiques. On a toujours l'impression qu'ils sont dans un carcan avec les mêmes qui tournent. Le choix, c'est le passé ou le présent, et puis on change, mais c'est les mêmes en fait. La solution serait peut-être l'émergence de nouvelles classes politiques, l'émergence de nouveaux acteurs qui proposent autre chose, Parce que sinon, on va se retrouver dans une situation où le pays sera scindé en deux, les uns pour celui qui est parti et les autres pour celui qui est là, et la bataille va continuer, les processus ne seront jamais que conflictuels, ainsi de suite, parce que la lutte aura été simplement individualisée avec des visages bien précis. Soit c'est Henri, soit c'est Ramano Madame, et puis voilà.
Le moment est venu, le moment très attendu par Liliane Niacha, je vous
et
le
vous,
confirme.
Francis Lalupo.
Vous allez écouter les messages de nos auditeurs sur Internet, messages recueillis et livrés par Richard Thierry Mbouekidjina, tout de suite.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, @débat BBC Africa et sur notre page Facebook, facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Mali, Fréjus Akoumia se dit pessimiste quant à la mise en place de la décentralisation. Ifodé Keita appelle notre invité à nous dire s'il est d'accord ou pas avec ce projet de loi. Quant à Bali Issa Traoré, il se demande si cette action ne va pas porter un coup à l'économie du pays déjà fragile. Sur la République démocratique du Congo, Albert Sangaré exhorte l'opposition à s'unir pour affronter la majorité présidentielle. Et pour Ozana Théadoum Djimranga, l'opposition montre par cette division son incompétence à diriger le pays. Merci à bienvenue Yatana et Tierno Moussa Baldé qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous aussi,
et à vous
Richard.
Également,
merci
Richard.
Beaucoup. En quelques secondes, une conclusion générale, monsieur le ministre.
Oh, écoutez, je voudrais juste vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de faire cette émission avec vous et observer simplement que sur l'ensemble de notre continent, nous avons encore beaucoup de d'efforts à faire en vue de la construction démocratique et républicaine de nos États. Et c'est une condition nécessaire pour que les efforts de développement puissent aboutir. Mais vous voyez, cela est intimement lié à la qualité de notre éducation. À la qualité de notre éducation, parce que vous êtes d'accord avec moi que la manière dont nous éduquons nos enfants, que ce soit à la maison ou à l'école, ben, c'est de la même manière que notre culture, qu'elle soit démocratique, qu'elle soit républicaine, ou qu'elle soit économique, ou comme vous voulez, sera forte ou pas forte.
Merci.
Et cela est un travail à faire. Voilà.
Merci
beaucoup. Nous avons beaucoup d'espoir d'aboutir.
Merci à vous, Tiémane Hubert Koulibaly, ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez notre grand témoin dans cette édition. Merci beaucoup. Alain Djaté était avec nous également, journaliste indépendant à Kinshasa. Et l'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris par François Richard, chargé de production Richard Thierry Mbouekidjina. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africa1.com et bbcafrique.com. Bon week-end à toutes et à tous à l'écoute de nos radios. À vous Liliane pour dire au revoir.
Merci Francis, nos radios respectives, BBC Afrique et Africa numéro 1 Paris. Et je vous souhaite un excellent week-end également Francis Lalupo.
Merci
et bien
à
sûr
vous.
À nos auditeurs. Au revoir.
Au revoir.